Bienvenue à tous pour ce temps de culte. Un culte de fête, comme tous les cultes, mais un culte dans la mémoire et l'élan d'un événement particulier. Le 31 octobre 1517, Martin Luther affichait sur les portes de l'église du château de Wittenberg 95 thèses qui marquèrent le début de ce grand mouvement de la réforme dont nous sommes les héritiers. Ces thèses exhortaient à ne pas rechercher la fausse sécurité proposée par une Église voulant disposer elle-même de la grâce de Dieu et des mérites qui auraient été acquis par le Christ et par tous les personnages particulièrement saints. Au contraire, ces thèses exhortaient à se laisser saisir soi-même directement par Dieu, à entrer dans la grâce par la foi. La thèse 62 proclame « Le véritable trésor de l'Église, c'est l'Évangile de la gloire et de la grâce de Dieu. » Alors aujourd'hui est un beau jour, un bon jour, pour dire ou redire à chacun et chacune « Oui, il est bon que tu sois ici aujourd'hui, avec ton histoire, avec ton chemin, que tu sois ancien ou nouveau dans ce temple, de l'Église protestante unie ou d'une autre Église ou d'ailleurs. Bienvenue. Car ce qui nous accueille, ce qui nous recueille, que nous soyons présents ou à distance, ce qui nous recueille ici et maintenant, chacune, chacun et tous, c'est l'amour, la paix et la joie de Dieu. Je vous invite à prier. Notre Dieu, nous sommes venus et nous nous retrouvons, chacun en soi et les uns avec les autres. Et nous te demandons, ton Esprit Saint, qu'il élargisse notre cœur et notre intelligence, qu'il nous rende sensibles et ouverts à ta présence, qu'il nous tienne ensemble, en écoute, en prière, en amitié. Amen. Nous restons debout pour le temps de la louange. Tu viens, par ta parole et par Jésus le Christ vivant, tu viens déchirer les ciels de nos illusions factices, ensemencer nos terres arides, aplanir nos chemins de ronces et de pierres. Tu viens tracer une route nouvelle, déraciner de nos vies les germes de haine et dévoiler un monde fraternel. Tu viens poser ton éclat au fort de notre nuit, apporter la fraîcheur de l'aurore pour notre terre flétrie, conduire nos pas dans des sillons d'amour. avec le Christ, Emmanuel, mystérieux visiteur de toute vie humaine, tu viens, Dieu avec nous, par ta parole, éclairer la terre. Amen. Et je vous invite à poursuivre la louange par le chant du psaume 23. Dieu, mon berger, me conduit et me garde, et nous le chantons en entier, le psaume 23. Prenez place. C'est avec ces deux versets de l'Épître aux Galates que nous écoutons la volonté de Dieu pour nos vies. Mes frères, mes sœurs aussi, vous avez été appelés à la liberté. Seulement que cette liberté ne devienne pas un prétexte pour la chair, c'est-à-dire un point de vue et un comportement égocentré. Par amour, faites-vous plutôt serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole : tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen.
Thank you.
Nous entrons dans la prière en nous présentant à Dieu tel que nous sommes. J'aime, mon Dieu, j'aime. Seulement tu le sais, et je le sais. Dans mon amour se cachent des comptes et des calculs. Dans mon amour se dissimule l'attente d'un retour. Il faudra bien me rembourser d'une manière ou d'une autre. Il faudra bien que celles et ceux que j'aime se montrent à la hauteur. J'aime, mon Dieu, j'aime. Seulement tu le sais, et je le sais. Mon amour est un peu mélangé à une part de possession, une part de domination, une part de jalousie, une part d'amertume et l'obsédant désir d'être aimée moi-même. J'aime, mon Dieu, j'aime, mais j'ai besoin de toi pour comprendre un peu plus clairement, pour vivre un peu plus véritablement ce que c'est qu'aimer. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre l'annonce du pardon et de la grâce. L'Esprit de Dieu recrée sans cesse en nous son image. Il change nos esprits encombrés de peur. Il nous rend capables de donner du goût à notre terre et d'illuminer ce monde par sa clarté. Il souffle sur nous le vent des béatitudes et du pardon pour donner au royaume de Dieu, pour donner un visage au royaume de Dieu qui accueille tout homme et toute femme de bonne volonté. Oui, je crois que Dieu désire la vie, notre vie, et il nous la donne sans mesure. Je vous invite à rendre grâce à Dieu pour son don ineffable en chantant au cantique 252. Prenez place. Nous prions. Éternel notre Dieu, que ton esprit ouvre en nous un espace pour ta parole de vie. Que ton esprit nous rende attentifs, disponibles aux mots des Écritures et aux cris du monde, aux échos de l'histoire et aux appels du présent. Que ta parole, qui nous porte ce qui est bon et beau, prenne place et corps en nous. Amen. Nous lirons ce matin un des trois textes proposés à la lecture et à la méditation des Églises en ce dimanche de Réformation. Dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 22, les versets 34 à 40. Les pharisiens apprirent que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, un spécialiste de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le grand commandement de la loi ?» Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. » C'est là le grand commandement, le premier. Un second, cependant, lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Parler d'aimer. En des jours de colère, de haine, de sang, en des jours de peur, de défaillance, d'abattement, en des jours d'horreur, de cris, d'ensevelissement. Parler d'aimer, mais ce n'est pas pour se changer les idées, ni pour se mettre un peu de baume au cœur, ni pour éviter d'écouter et de voir la réalité ici et au loin. Parler de Dieu, en des jours où certains prétendent détenir la vérité à son sujet, où d'autres tuent en son nom, où l'instrumentalisation de la foi occupe tant d'idéologies économiques, nationalistes, religieuses. Parler de Dieu, mais pas pour le justifier, ni pour défendre son honneur, ni pour l'évacuer de nos drames humains. Parler du prochain. En des jours où des hommes, des femmes et des enfants s'enfuient, s'enfouissent, chavirent, disparaissent. En des jours de tri, de discrimination, d'exclusion, d'affrontement. Parler du prochain. Mais ce n'est pas pour se dédouaner, ni pour se rassurer, ni pour se préserver. Parler d'aimer, de Dieu, du prochain, pour dire et dire encore à soi-même et à d'autres qu'il y a du possible malgré les fermetures, qu'il y a du sens malgré le chaos, que tout n'est jamais dit sur autrui ni sur soi-même, et que soit tenu, soutenu, maintenu, soi-même et d'autres. En parler ce matin, ce sera en se penchant sur ces quelques versets tellement connus, tellement cités, tellement repris. Sommaire de la loi, le plus grand commandement, Les titres de ce passage dans les éditions des Bibles concentrent l'intensité de la réponse de Jésus aux spécialistes de la loi lors de ce bref échange. Un échange pour une question qui est un piège. Et il est vrai que la mort rôde, qu'elle s'approche avec la violence, les injures, les humiliations et la croix. C'est la troisième fois que dans cette journée, Matthieu met en scène un groupe de pharisiens ou de sadducéens cherchant à prendre Jésus en défaut. Une première fois, c'est avec des pharisiens au sujet de l'impôt dû à César. Puis les sadducéens posant une question sur la résurrection. Et enfin, celle du spécialiste de la loi. Quel est le grand commandement de la loi? Et cette question, Matthieu le dit clairement, nous ne sommes pas surpris, cette question est une mise à l'épreuve de Jésus. Ou pour le dire autrement, parce que le terme grec de mise à l'épreuve le permet, cette question est une tentation. Comme lorsque le Satan tente Jésus au désert après son baptême. Mais en quoi cette question est-elle un piège, une tentation, une mise à l'épreuve? Après tout, parmi les 613 commandements de la Torah, auxquels il faut ajouter tous les commentaires oraux qui ne sont pas encore posés par écrit à l'époque de Jésus, pourquoi n'y en aurait-il pas un plus important que les 612 autres? D'ailleurs, il y a le Décalogue, ce qu'on appelait auparavant les 10 commandements dans le livre de l'Exode et dans le livre du Deutéronome. 10 paroles pour dire la loi pour la liberté du peuple au sortir de l'esclavage. Les prophètes eux-mêmes ont écrit des résumés de la loi. Le prophète Ésaïe l'a fait en 6 paroles au chapitre 33. Le prophète Michée en 3 paroles au chapitre 6. Le prophète Amos en une seule parole au chapitre 5. Et l'apôtre Paul lui-même, nous l'avons entendu tout à l'heure, écrit aux Galates que la loi et les prophètes sont contenus en une seule parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et après tout, puisque nous sommes le dimanche de la Réformation, Martin Luther n'a-t-il pas entendu l'Évangile comme bonne nouvelle grâce à une parole du livre du prophète Habacuc: le juste vivra par la foi. Une parole qui demeure extrêmement précieuse pour les protestants, puisqu'elle ouvre à cette conviction de la justification par la grâce seule. En quoi la question du spécialiste de la loi est-elle une tentation? D'autant plus que Jésus n'hésite pas une seconde à répondre, et qu'il répond en citant effectivement deux commandements de la loi. Un du livre du Deutéronome au chapitre 6, même s'il le modifie un petit peu en remplaçant la force de toute ta force par de toute ton intelligence. Et puis un autre commandement du livre du Lévitique au chapitre 19, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quelle est la tentation qui ferait que donner une réponse à cette question ferait basculer celui qui répond hors de sa relation à Dieu? Parce que c'est cela une tentation, comme celle que Satan agite devant Jésus au désert. Une tentation, si on ne l'évite pas, est ce qui sépare l'être humain de Dieu. Mais pour être efficace, la tentation avance masquée, sinon ce serait trop facile. C'est pourquoi le piège de la question posée à Jésus ne réside pas dans la question elle-même, mais dans l'état d'esprit de celui qui la pose. Elle est mise à l'épreuve de son point de vue à lui, mais pas du tout du point de vue de Jésus, qui répond sans attendre et sans hésiter. Celui qu'on appelle dans les Écritures le Satan l'adversaire, qui est ce qui s'oppose à l'humain espéré par Dieu. Ou, on peut le désigner d'une autre manière, le diable, le diviseur, qui coupe la relation entre l'humain et le Dieu source de vie. Eh bien, ce n'est pas dans les mots, c'est dans l'esprit selon lequel les mots sont prononcés. Si cette question est une mise à l'épreuve, une tentation, c'est que dans l'esprit du spécialiste de la loi, il ne peut pas y avoir de réponse. Il ne peut pas y avoir de commandement plus grand que les autres. Ils sont tous absolument de la même importance et tous doivent être respectés de la même manière, car c'est à cela que se tient le salut de l'humain. C'est cette question est mise à l'épreuve et tentation parce que, pour le spécialiste de la loi, la réponse serait aucun. Cependant, c'est bien dans cette manière de comprendre les commandements que se glisse aussi la tentation qui transforme l'être humain en esclave de la lettre des commandements et Dieu en gestionnaire du compte des manquements et des transgressions. Il est impossible de se tenir en confiance devant un Dieu lorsque le rapport à la loi que donne ce Dieu est limité à une seule sorte de question: est-il permis de ou pas? Ce littéralisme scrupuleux qui fait penser que l'humain pourrait se mettre en règle avec Dieu par une stricte obéissance, Jésus ne cesse d'en dénoncer les méfaits, ce qu'il produit, des jugements d'exclusion, de déconsidération portés sur autrui, la domination de l'autre, ainsi que le dessèchement de l'âme. Et c'est face à cet état d'esprit qui induit la tentation et la mise à l'épreuve des autres humains que Jésus répond paisiblement que oui, il y a un commandement plus grand que les autres et un second qui lui est semblable. Il y a un commandement auquel sont suspendus tous les autres. Et si ce commandement est ignoré dans sa double formulation, il est vain, complètement vain, de respecter les autres. Il y a un commandement qui donne le sens de tous les autres. Et si ce commandement est négligé, toute religiosité, toute piété, tout rite sont vains, complètement vains. Face à une Église exigeant la soumission aux règles qu'elle édictait en les parant de la volonté de Dieu, Martin Luther, au XVIe siècle, a repris un tel geste, en posant la justification par la grâce seule comme l'expression de la volonté de Dieu, et tout le reste est suspendu à cela. Toute croyance, toute conviction, toute doctrine est référée à l'évangile ainsi compris, évangile libérateur de la peur, des comptes et du devoir se justifier soi-même. Le grand commandement que Jésus pose face aux spécialistes de la loi, avec le second qui lui est semblable, est déjà, par excellence, une expression de l'évangile libérateur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce double commandement soutient toute la loi. Les 613 prescriptions et la masse de leurs commentaires et les 10 paroles du Décalogue et les 6 d'Ésaïe et les 3 de Michée et celles d'Amos, c'est-à-dire qu'ils soutiennent toute l'existence de celles et ceux qui se confient au Dieu de Jésus-Christ, parce que la loi est un chemin de vie et pour la vie, bien plus qu'un impératif. La loi est bien plus une promesse une injonction. Tu aimeras. Tu ne seras pas coupé, disjoint, dissocié, désuni, détaché de Dieu, ni de ton prochain. Tu seras libéré de ce qui te sépare de Dieu et de ton prochain. Tu seras libéré de la peur de Dieu et de ce qui te fait considérer le prochain comme un ennemi, un concurrent, un danger. Tu seras avec Dieu en relation de reconnaissance et de confiance. Tu l'aimeras. Tu seras avec le prochain en relation de justice, de miséricorde et d'équité. Tu l'aimeras. La reconnaissance et la confiance envers Dieu engagent l'humain en un être renouvelé dans l'amour, l'amour qui est justice, l'amour qui est miséricorde, l'amour qui est équité, égalité de considération d'autrui. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence, toute la volonté, car le cœur est le siège de la volonté. Et cela nous avise lorsque nous glissons vers une sentimentalité facile. Toute l'âme, qui est le principe vital, et cela nous avise lorsque nous nous crispons sur des principes, des jugements et des catégories. Toute l'intelligence, qui est conscience et responsabilité de la quête de sens, et cela nous avise lorsque nous cédons sans réflexion, sans esprit critique, à des réponses déjà là. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire en le considérant comme ton égal, ni plus ni moins, et quel qu'il soit ce prochain. Pas seulement un enfant, un blessé, un étranger, mais aussi un contradicteur, un bourreau, un ennemi. Parce qu'aimer n'est pas qu'un sentiment, ou si peu un sentiment. Surtout dans la culture hébraïque qui est celle de Jésus de Nazareth, c'est toujours un amour pratique, incarné dans un être au monde qui n'a rien de mièvre ni de mou et qui ne va pas de soi. Ce en quoi l'amour peut effectivement être le contenu d'un commandement, c'est-à-dire d'une interpellation qui réveille et réoriente dans la conviction qu'il y a là une vérité pour sa propre vie et pour le monde. Et ce n'est pas un cœur qui symbolise l'amour, mais plutôt le signe égal, une égalité qui crée une communauté d'humanité. Jésus de Nazareth révèle que l'amour fonde la structure du réel du monde. Mais certes, la réalité en est bien éloignée, parce que la perception du réel est mise à l'épreuve, tentée, tordue par les principes de domination qui gouvernent tant d'institutions et de personnes. La réforme a été un de ces mouvements, un de ces soulèvements qui rapprochent la réalité du réel d'amour, en protestant contre un système religieux qui avait enfoui l'Évangile sous l'exercice d'un pouvoir et l'accumulation de conditions. Mais n'oublions pas non plus que très tôt, la réforme a conduit à des mises en accusation, à des condamnations et à des exécutions. Le jeune Félix Manz, condamné à être noyé en 1527 dans la Zurich de Zwingli parce qu'il refusait le baptême des enfants. Michel Servet, condamné au bûcher dans la Genève de Calvin en raison de son antitrinitarisme. Personne n'est à l'abri de la tentation. Certainement, ce pourquoi nous pouvons entendre, et encore en ces jours-ci, le plus grand commandement, le premier, et celui qui lui est semblable, comme un appel à la conversion intérieure, autant qu'à l'engagement de l'être entier. Nous pouvons l'entendre comme la promesse d'une fidélité qui ne force personne. Nous pouvons l'entendre comme l'ouverture d'un chemin, inlassablement chemin, où que l'on soit. Nous pouvons laisser résonner ces mots en nous, selon l'esprit du Christ, dans notre âme, dans notre cœur, notre volonté, dans notre intelligence. Et cela nous aidera. Cela nous aidera à aider, nous aidera à vivre. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre une confession de foi qui nous vient d'un siècle bien avant la Réforme, du 8e siècle. Nous croyons en la lumière éternelle qui vient briller dans nos cœurs, en la bienveillance éternelle qui nous délivre du mal, en la puissance éternelle qui vient nous soutenir, en la sagesse éternelle qui vient éloigner les ténèbres de notre ignorance, en l'amour éternel qui a pitié de nous. De tout notre cœur et de tout notre esprit, de toute notre âme et de toute notre force, nous nous enracinons en lui. Et nous puisons son amour infini qui nous fait demeurer en sa sainte présence. Amen. Le Christ vivant nous convie ce matin à sa table. Il nous invite à partager le pain nouveau, à lever la coupe de bénédiction, en appelant de toutes ses forces l'effacement de la faim et du sang sur la face de la terre. Nous recevons cette manne et ce pain de vie pour que s'éteigne la faim, toute faim qui désole encore notre terre. Et nous élevons la coupe, signe du sang versé, pour que cesse la guerre, la torture des prisonniers, la mort inconnue des disparus. Nous vivons cette communion avec tous ceux qui ont foi en ce Jésus de Nazareth, qui a aimé les siens jusqu'à l'extrême, jusqu'à en mourir, et que Dieu a relevé d'entre les morts. C'est pourquoi, remplis de reconnaissance, avec les disciples de tous les lieux et de tous les temps, nous le célébrons et nous chantons. Et nous chantons au cantique 231. De toi, Seigneur, nous vient le don.
Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12 disciples. Pendant le repas, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, c'est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, c'est mon sang. » Le sang de l'Alliance qui est répandu pour une multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père.
Nous nous recueillons dans la prière.
Ô notre Dieu, tu es la source de la vie, tu es la source de l'amour. Voici le pain et le vin. Fais monter en nous ton souffle de renouveau, que rien ne nous écrase, ni la peur, ni la mort, ni l'injustice, ni le péché. Au contraire de nous, fais au contraire de nous des êtres vivants de ton évangile, réunis dans la foi et dans l'espérance.
En ce jour où nous commémorons la réforme de ton Église, à écouter la voix du passé, à entendre les prophètes, les martyrs, les témoins de Jésus-Christ, grands et humbles serviteurs de la vérité. Parce que cette voix est remplie d'une histoire de fidélité, la tienne et celle des hommes et des femmes qui t'écoutent. Parce que cette voix nous invite à prendre notre place dans cette chaîne de témoins. Parce que cette voix renouvelle nos convictions et notre espérance et nous rend capables d'emprunter de nouveaux chemins de service à l'écoute de la voix du Christ. Accorde-nous amour et sagesse par l'action de ton esprit en nous, pour que dans notre tâche quotidienne, nous soyons fidèles, reconnaissants et pleinement disponibles.
Nous ne voulons pas rester indifférents les uns aux autres, ni fuir l'âpreté de notre temps. Nous ouvrons notre prière à ceux qui sont emportés par la violence et par la douleur, aux otages enlevés en Israël, à leurs familles angoissées et à celles endeuillées par les massacres du 7 octobre, aux familles de Gaza amputées par les représailles et celles qui ont tout perdu dans les bombardements. Nous ouvrons notre prière à ceux qui sont emportés par ta violence et la fureur, qui ajoutent la haine à la haine et le malheur au malheur, qui ne considèrent plus l'humain ni la valeur de la vie. Nous ouvrons notre prière à celles et ceux qui veillent et bien veillent, qui évitent de trop parler, qui portent secours aux artisans de justice et de paix. Nous glissons notre prière dans les mots que Jésus a enseignés à ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.
Voici, dit Jésus le Christ, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, je prendrai le repas avec lui et lui avec moi. Nous sommes tous invités à ouvrir la porte, quelles que soient nos appartenances et nos croyances, en mémoire et en témoignage de confiance en ce Jésus, Christ, qui partageait le pain, les joies et les souffrances des humains et enseignait ainsi la solidarité. Nous formerons un cercle autour du temple. Je vous invite à tous y prendre place, même si vous ne souhaitez pas prendre le pain et le vin. Venez dans le cercle, qui est aussi un cercle de communion d'humanité. Et je vous invite à saluer vos voisins, à droite et à gauche. Vous ne les connaissez peut-être pas. pain que nous partageons est le signe de notre communion, de notre solidarité, les uns avec les autres et avec ceux qui manquent de pain, ceux qui manquent de quoi vivre. De bénédiction pour laquelle nous rendons grâce nous rappelle le sang versé par Jésus et tout le sang versé inutilement sur la terre par la faute des humains. Elle nous rappelle notre espérance et notre volonté d'œuvrer comme nous y a exhorté le Christ pour que s'établisse un royaume de paix. Rassemblons-nous dans la prière. Père, que ce repas nous donne un nouveau regard sur le monde. Après avoir partagé la scène, nous voulons te rendre grâce en ayant un regard nouveau sur nos frères et sœurs, sur nos prochains. Un regard accueillant, un regard compatissant, un regard élargi, un regard d'espérance. Nous voulons te rendre grâce en partageant nos joies et nos doutes, nos questions et nos peines, nos projets et nos luttes, avec la force, le courage que tu nous donnes. Amen.
Amis, frères et sœurs, le Christ est vivant. Dans la joie, nous pouvons regagner notre place.
Eh bien, voici quelques nouvelles à partager en ce dimanche. La collecte au profit de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge, comme tous les dimanches, et donc dimanche prochain, vous pouvez y penser également. Dans la semaine qui vient, il n'y a pas beaucoup d'activités, puisque c'est encore la période des vacances scolaires, et qu'en général, nous ne faisons pas de réunions pendant cette période de vacances, mais le week-end prochain, le dimanche prochain, le 5 novembre, il y aura bien sûr le culte à 10h30 et il y aura à 17h30 l'après-midi une cantate, puisque c'est le premier dimanche du mois, c'est la BWV 19. Merci. Et c'est notre ami Frédéric Rivoal qui coordonne cette cantate. Et il y aura aussi notre ami Freddy Eichelberger à l'orgue. Et c'est une cantate pour la Réformation, pour le jour de la Réformation, qui est pleine d'énergie. Vous avez aussi, du moins ceux dont nous avons l'adresse mail, reçu un message concernant la fête de l'amitié qui aura lieu à la fin du mois de novembre, le dernier week-end du mois de novembre comme tous les ans, et avec donc une annonce pour des commandes de lasagne auprès de notre amie Nicole Gigliotti, qui me signale qu'il en reste encore un peu. Donc si vous n'avez pas encore passé votre commande, vous pouvez le faire auprès de Nicole. La livraison sera faite le 10 novembre. Dominique, est-ce qu'il y a une annonce pour l'entraide ?
Dans le micro.
Merci de me donner la parole. Oui, nous avons des convocations à l'OFPRA en ce moment à tour de bras. Après 5 en octobre, il y en a deux, donc une là avec notre ami Hamid qui est avec nous ce matin, qui est arrivé ce matin tôt. Et puis le 2 et 3 novembre, nous accueillons un autre frère afghan qui doit passer à l'OFPRA le 3. Et j'ai un petit souci pour l'accueil au train, le déjeuner et l'après-midi du 2. Voilà. Le 3, je peux me rendre disponible. Mais si le 2, quelqu'un pouvait accueillir cette personne à la gare de Lyon, la faire déjeuner et l'emmener à l'OFRA, ce serait vraiment très très sympathique. J'en profite parce que je pensais qu'il y avait dans l'amitié de cette semaine, de ce mois-ci, un article sur l'entraide. Ah, c'est le mois prochain. Bah, avant le mois prochain, nous avons absolument besoin d'étoffer notre groupe d'accueil, si possible d'hébergement aussi, bien sûr, mais surtout d'accueil. Bon nombre d'amis qui nous aidaient il y a quelques années ont repris un travail ou sont partis. Et voilà, nous avons besoin de forces vives. Merci beaucoup.
Alors je rappelle que cette action de l'entraide du foyer de l'âme se fait en articulation avec une association de Toulon dans le Var qui s'appelle Welcome, qui accueille et héberge des personnes migrantes. Et ces personnes, de temps en temps, doivent venir à l'OFPRA pour passer un entretien. Et nous nous chargeons de les accueillir, de les emmener, de les nourrir et de les héberger. Mais chacun peut prendre selon sa part et ses disponibilités dans ce dispositif, que ce soit un hébergement, que ce soit l'accueil en journée, comme Dominique le disait, pour le 2 novembre, quelqu'un qui aurait une disponibilité pour aller chercher à la gare, accompagner à l'OFPRA et faire déjeuner. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec Dominique, qui est au fond du temple, et à lui donner vos coordonnées, même si ce n'est pas bon pour le 2, il y aura peut-être un autre jour où ce sera possible. Voilà, merci. Isabelle, pour la fête de l'amitié.
Et voilà, la fête de l'amitié se prépare, et c'est absolument super. Il y a des choses partout. Mais alors, cette année, on fait aussi beaucoup de nouveautés, mais les traditions, les grands, ce qui est nécessaire chaque fois et qu'on renouvelle chaque année, c'est toujours là. C'est-à-dire, est-ce que vous avez des choses à apporter? C'est le moment d'apporter des livres, des BD pour les jeunes, des livres pour les enfants, des jouets, des vêtements en bon état, des vêtements qu'on aurait plaisir à porter, nous. Hein? Si vous avez envie de participer à la confection du buffet, à la confection du salon de thé, enfin, non, à la confection de choses pour le salon de thé, ou de bonnes choses pour le salon de thé. Nous sommes là, et ce qui est formidable avec la fête de l'amitié, c'est qu'on agit de manière différente les uns et les autres, mais en fait, on est quand même tous ensemble, parce que même si vous faites rien, ça serait bien que vous veniez.
Dernier week-end de novembre. Est-ce qu'il y a d'autres annonces à partager ? Alors, c'est le moment de l'offrande, un partage de, enfin, une mise en commun plutôt, de la louange, de la confiance et d'argent également, puisque les foyers de l'âme en ont besoin pour être ouverts, pour accueillir. Donc, c'est votre solidarité qui permet à cette église, à ce foyer, d'être ouvert. Et pendant dans le temps où l'offrande sera rassemblée, et je rappelle qu'il y a également le panier connecté pour ceux qui n'ont qu'une carte bancaire dans leur poche, eh bien nous levons pour chanter le cantique de la Réformation, le cantique de Martin Luther, le 238, « C'est un rempart que notre Dieu », nous le chantons en entier. Je vous invite à rester debout. Avant, j'ai oublié dans les annonces de remercier Patrick, qui a retrouvé au piano son instrument de prédilection et de première formation. Ce piano est laissé ici en dépôt par l'Association des jeunes talents qui organise un concert ici une fois par mois le mercredi. Vous avez les programmes sur des pliants sur la table au fond. Et donc ce magnifique Steinway est à eux et nous avons la possibilité de nous en servir. Donc c'est ainsi que nous avons eu aujourd'hui un culte au piano, pour une fois pas d'orgue. Voilà. Et pour exhortation, une parole à emporter, peut-être deux, dans un seul verset, de la première épître de Jean au chapitre 4, les versets 7. L'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Allez en paix, chers amis, frères et sœurs, car Dieu qui nous bénit demeure avec nous, avec les nôtres, avec tous, avec les présents et les absents, avec les vivants et avec les morts, pour le temps et pour l'éternité. Amen.